Je voudrais dire quelques mots de cet aveugle de Jéricho qui nous interpelle. Cet épisode de la guérison de cet aveugle de Jéricho, elle est rapportée par les trois évangélistes qu'on appelle les synoptiques, vous savez, Luc, Marc et Matthieu. Et si on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe avant ce miracle, de manière à le resituer dans son contexte, on voit que chez deux des évangélistes, c'est-à-dire Matthieu et Marc, il y a l'épisode avant des fils de Zébédée, Jean et Jacques. Vous savez, les fils de Zébédée, ils se querellent, ils se disputent parce qu'ils veulent être tous les deux à la première place dans le royaume des cieux. Et Jésus les rabroue sévèrement en leur disant « Vous ne savez pas ce que vous dites, est-ce que vous pourriez boire le calice que je vais boire et le baptême dont je vais être baptisé ?» Alors, ils sont un peu fanfarons et disent « Oui, nous pouvons le boire. » Alors, effectivement, ils le boiront plus tard, mais sur le moment, ils sont complètement inconscients. Ils ne comprennent vraiment rien de ce que Jésus lui dit. Le troisième, c'est Luc, juste avant cet épisode, il y a l'annonce de la passion. Voilà. Et là non plus, les apôtres ne comprennent rien. Enfin, ils ne sont pas encore apôtres à l'époque, ils sont disciples. Les disciples ne comprennent rien et ils sont vraiment... ils passent complètement à côté, ils sont complètement déconnectés, je dirais, du royaume. L'homme qui est livré à ses propres forces ne peut entrer dans le mystère du dessein de Dieu. Il ne peut pas comprendre les vérités essentielles. Et il faut que le Seigneur leur ouvre, comme à nous-mêmes, les yeux spirituels, les yeux du cœur, pour comprendre la parole de Dieu. L'œil humain, livré à lui-même, ne peut rien pénétrer, ne peut rien voir. C'est pourquoi ce miracle de la guérison de cet aveugle a du sens largement au-delà du simple fait du miracle, mais c'est vraiment, ça a une portée universelle. C'est vraiment pour nous faire comprendre la nécessité que nous avons tous, que le Seigneur nous ouvre les yeux, nous fasse pénétrer dans son mystère, dans son royaume. Et nous devons sans cesse demander à Dieu de nous ouvrir les yeux, comme cet aveugle qui crie sur le bord du chemin, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Ça vous rappelle évidemment la prière de Jésus, cette prière que on dit, je dirais, indéfiniment, constamment, tout le jour, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Cette prière qui contient, je dirais, l'essentiel de la prière chrétienne, parce qu'elle est d'abord une prière de louange, fils de Dieu, c'est comme fils de David, et puis elle est une prière de demande, aie pitié de moi. Cette prière, il faut, en cette période où nous préparons à Noël, à accueillir le Christ qui vient dans notre monde, alors il nous faut la renforcer, la dire autant que nous pouvons, autant que possible, matin et soir, et si possible même à tout moment, comme je le disais. Elle finit, si on y est fidèle, et si on la dit souvent, elle finit par venir d'elle-même, par être en elle-même dans notre cœur. Pardonnez-moi. Et cette prière, elle doit s'accompagner du jeûne, du repentir et de l'humilité. C'est le sens de ce carême de Noël que nous poursuivons déjà depuis le 15 novembre, mais voilà, en décembre, et particulièrement, les pères insistent pour dire qu'à partir de la Saint-Nicolas, c'est-à-dire le 6 décembre, c'est dans le courant de la semaine, vers la fin de la semaine, alors il faut redoubler d'efforts. Ce carême, il a la réputation d'être un carême pas trop dur, dans lequel on est moins exigeant que dans le grand carême de Pâques. Mais moi, ce que je vous conseillerais, comme le disent les pères, c'est qu'à partir de la Saint-Nicolas, renforcer le carême. C'est toujours une question de prescription alimentaire, mais ce n'est pas que ça. C'est surtout renforcer la prière, être dans cette attitude de repentir et d'humilité que le Père Sophronie, Saint Sophronie, devrais-je dire, décrit admirablement dans son ouvrage intitulé « Voir Dieu tel qu'il est ». Voir Dieu tel qu'il est, c'est véritablement le programme qui nous est proposé dans cet évangile de ce matin. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et il est appelé à la déification et à la vision de la lumière incréée. Cette lumière que les apôtres ont vue au mont Tabor lors de la transfiguration et que beaucoup ont vue, et le Père Sophronie aussi, et voilà, Saint Siméon, enfin bon, on a beaucoup qui l'ont vue, cette lumière qu'on appelle lumière incréée, parce que c'est véritablement Dieu, c'est vraiment Dieu dans ses énergies, hein, cette lumière. Voilà. Et ça suppose un changement, évidemment. Si cette lumière était là à l'instant même, peu d'entre nous peut-être la verrions, parce qu'il faut que nos yeux soient transformés. Il faut une transformation profonde de l'homme qui est d'abord, je dirais, un individu centré sur lui-même, sur son ego, et qui doit devenir une personne. Vous voyez toute la différence qu'il y a entre l'individu et la personne qui est en communion avec la Sainte Trinité et avec son prochain. Le Père Saint Sophronie donc décrit la voie qu'il a suivie, guidée par le Saint-Esprit, dans le combat ascétique et la prière pour la purification du cœur qui s'obtient, comme je disais, par l'humilité et le repentir. Et il montre comment ce chemin s'accomplit aussi par la crucifixion du vieil homme et par la traversée des ténèbres de son propre enfer intérieur. Ainsi, l'homme peut accéder à la lumière du royaume. Il peut voir Dieu tel qu'il est et s'unir à lui. Ceci est possible et rendu possible parce que le Seigneur est tout amour, tout don de soi, tout dépouillement de soi. Et il faut que nous le cherchions dans ces mêmes dispositions de don de nous-mêmes, de dépouillement de nous-mêmes, car le Saint-Esprit n'accomplit rien sans notre coopération effective, efficace. Voir Dieu à Noël, c'est pas seulement s'attendrir sur un petit enfant dans une crèche, mais il faut que cette vue soit en nous, que ce soit dans notre cœur, que nous puissions le ressentir, le vivre. Et à ce moment-là, ce sera une source de joie véritable. À ce moment-là, le Noël, qui est quelquefois, s'affiche avec une allégresse un peu factice, hein, dans cette société de consommation qui est la nôtre. Alors, si véritablement Dieu naît, vit dans notre cœur, alors c'est une source de joie véritable. Et il faut que notre cœur, évidemment, soit purifié. C'est à cela que sert le carême. Qu'il soit transformé, qu'il soit illuminé par l'Esprit Saint. À qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.